Radio Kapi.
En direct de Kinshasa, il est précisément 12h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Trois assaillants neutralisés et six autres capturés. Bilan des affrontements survenus ce vendredi matin au quartier police des frontières à Délé et à Oo, en Ituri, entre des miliciens FPIC et les FARDC. Le président du Sénat dénonce une tentative d'enlèvement mardi soir du questeur de sa chambre par des hommes armés. N'ayant pas réussi à l'enlever, ajoute Alexis Tambwe-Mwamba, des inspecteurs de la police judiciaire se sont alors présentés pour lui signifier un mandat d'amener. Notre invité, c'est le vice-gouverneur de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, parle de l'installation d'une brigade provinciale d'assainissement et de comment elle va fonctionner avec une autre qui existe déjà à Kisangani. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, Mimi Kindou est sur les manettes. En Ituri, la situation sécuritaire à Lengabo, à l'entrée sud de la ville de Bounia, reste volatile. Jusqu'au petit matin de ce vendredi, des détonations d'armes étaient encore entendues vers les quartiers police des frontières à Délé et à Oo. Le bilan provisoire dressé par les FARDC fait état de trois miliciens FPIC neutralisés et six autres capturés. D'autres sources sécuritaires locales parle d'environ 10 morts et des blessés, dont un officier des FARDC en province. À Bounia, le récit de Martial Kizabiamungu.
C'est vers 16h locales jeudi que des combats entre le FARDC et des hommes armés identifiés aux miliciens de la FPIC se sont intensifiés à Lengabo. Selon des sources sécuritaires, les forces loyalistes pourchassaient deux miliciens qui s'étaient dissimulés parmi la population dans cette agglomération. Ces hommes armés ont tenté en vain de contourner l'armée pour entrer dans la ville de Bounia. Les porte-parole de FARDC à Ituri avancent un bilan provisoire des deux blessés du côté de l'armée, trois miliciens neutralisés et six autres capturés. Un assaillant a été grièvement blessé et deux armes de type AK-47 récupérées par l'armée, ajoute le lieutenant Gilles Ngongo. Cependant, d'autres sources sécuritaires affirment la mort d'un soldat et d'un policier du groupe mobile d'intervention GEMI et son arme récupérée par l'ennemi. Les mêmes sources affirment qu'un officier de FARDC a été légèrement blessé par balle. Un camion de FARDC à provenance de Marabo est également tombé dans une embuscade à Lengabo. Le chauffeur est porté disparu, mais l'engin a été récupéré et acheminé à Bounia. Ce vendredi matin, des détonations d'armes étaient toujours entendues dans la même entité. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On reste en Ituri où plusieurs villages de la périphérie de Bounia se sont vidés de leurs habitants suite à la activisme des hommes armés, notamment à Lengabo et à Tokodo. Ces personnes déplacées ont afflué au centre-ville et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Une psychose s'observe également au chef-lieu de la province suite aux coups de feu entendus presque chaque jour par les habitants de la zone. Le point de la situation avec vous, Isaac Rémiopé.
Le mouvement massif de la population a été observé hier jeudi au sud de la ville de Bounia. Des femmes et des enfants avec des bagages à la tête ont envahi les rues pour fuir les combats entre les forces de l'ordre et des présumés miliciens de la FPIC qui s'étaient cachés parmi la population. Ces personnes proviennent des localités de Solaya 1 et 2, Ilangibila, Dudunyawasu et Nzoga, environ 5 km de Bounia, qui sont quasi désertes. Ces déplacés se sont installés au quartier Hoho, Kindia et Délé à Bounia. Les déplacements des populations également observé depuis mardi à l'entrée nord de la ville de Bounia, au quartier Muzipela dans la commune de Chari. Ces personnes ont fui les localités de Solenyama et de Tokodo qui ont été la cible d'attaque des assaillants du groupe armé FPIC, affirme le chef de Kasegwa. La localité de Mia, à l'approche des zones de combat, est également vidée de ses habitants qui redoutent l'attaque de ces miliciens. Toutes ces personnes sont dépourvues de tout. Elles plaident pour le rétablissement de la paix pour leur permettre de regagner leurs milliers d'origine et d'évacuer librement à leurs occupations. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au nord Kivu, pendant 7 ans, deux autres personnes ont été tuées la nuit dernière au quartier Ndosho, à l'ouest de la ville de Goma, par des bandits armés. Selon les autorités locales, la police nationale qui est intervenue est parvenue à neutraliser un des suspects. Le récit de Bernard Nyangi.
C'était entre minuit et 1h du matin, la nuit dernière, que des bandits inconnus ont opéré dans deux avenues du quartier Ndosho, indiquent les sources administratives locales. Ces bandits ont tiré sur un homme âgé d'environ 35 ans, pasteur d'une église protestante locale, sur l'avenue Roissama. Ils ont aussi tiré sur un jeune garçon d'environ 17 ans, sur l'avenue Renga. Les deux victimes sont mortes sur le coup. Ces sources ajoutent qu'un centre médical local a aussi été cible d'une incursion d'hommes armés pendant les mêmes heures dans ce quartier où des malades et infirmiers de garde auraient été torturés et leurs téléphones et argent emportés. Un des présumés auteurs de ces attaques a été neutralisé par les éléments de la police venus en intervention après l'alerte de la population. Selon les sources de la police ville, l'arme de ce dernier a été saisie avec des munitions, mais il est décédé à l'hôpital provincial quelques temps après. Rappelons que le quartier Ndosho est depuis le mois d'octobre 2020 victime d'attaques récurrentes d'hommes armés qui ont causé la mort d'une dizaine de civils, d'autres kidnappés et des biens de valeur emportés. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, les combattants retournés dans leurs anciens maquis du général autoproclamé Bouira, jadis allié à Chimwirmaï, alias Guidon, chef de la milice NDC rénovée, continue de faire la loi dans le groupement Diana en territoire de Walikale. Ces miliciens érigent quotidiennement des barrières, imposent des taxes illégales aux habitants de la région. C'est ce que nous raconte Gabriel Wamenya.
En dépit de la stabilité sécuritaire observée dans la cité de Pinga ces derniers jours, les menaces et les violences restent toujours présentes dans les esprits des populations. Les responsables coutumiers de la région s'inquiètent encore de la présence des combattants du général autoproclamé Bouira sur les différents axes qui relient Pinga à d'autres agglomérations de la région. Ces combattants font payer des taxes illégales, comme le confirme ici Mwami Serafin Goulou.
Sur Pinga, la situation sécuritaire elle est calme, sauf aux environs, monsieur le journaliste, où l'on fait payer les jetons à la paisible population, 1000 francs, 2000 francs par personne, ça déstabilise la population parce que Guira il a intégré les FARDC. Aujourd'hui, nous regrettons encore les éléments de Guira qui sont intégrés dans le gouvernement, commencent à faire payer les 1000 francs et 200, 2000 francs comme jetons.
Rappelons que les combattants encore fidèles à Chimwirai alias Guidon, qui occupaient depuis plusieurs mois la cité de Pinga, ont été mis en déroute par les forces loyalistes depuis le mois de mars de l'année passée. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Retournons ici à Kinshasa, où le président du Sénat plaide pour la sécurisation des membres du bureau du Sénat ainsi que de tous les sénateurs. Dans une correspondance adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Alexis Temwemwamba dénonce une tentative d'enlèvement du questeur de la chambre haute du Parlement mardi soir par un groupe d'hommes armés. N'ayant pas réussi à l'enlever, ajoute Alexis Temwemwamba, des inspecteurs de la police judiciaire se sont alors présentés au même lieu au motif de lui signifier un mandat d'amener. Michel Kifindangoy.
Dans sa correspondance d'hier jeudi, le président du Sénat dénonce qu'après le passage des inspecteurs, la garde commise à la sécurité du questeur du Sénat lui a été retirée. Alexis Temwemwamba estime qu'en vertu de l'article 107 alinéa 3 de la Constitution, les poursuites contre un sénateur en période de vacances ne peuvent être possibles qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrance. Pour lui, la procédure d'arrestation cavalière des élus du peuple ne contribue pas à asseoir l'état des droits tant prôné par le chef de l'État, mais elle a pour effet la déstabilisation des institutions. Notez que c'est depuis le début de cette semaine qu'une rumeur circule faisant état d'un complot organisé par les questeurs du Sénat pour tenter une éviction du premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga. Le questeur aurait même corrompu les sénateurs pour signer une pétition contre Sami Badibanga. Dans sa conférence de presse d'hier jeudi, les rapporteurs du Sénat a qualifié cette information de procès d'intention contre les questeurs dans l'objectif de déstabiliser le bureau du Sénat.
Autre nouvelle en plus bref, 5 personnalités ont été désignées à Kinshasa par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour assister Modeste Batilukwebo dans sa mission d'informateur en raison des zones linguistiques de la RDC. Il s'agit de Sami Badibanga pour les Kasaï, Jean-Bertrand Ewanga pour l'Équateur et Rémi Massamba pour l'espace Bandundu Congo Central. Dany Banza a quant à lui été désigné pour l'espace Swahilifone et Jean Tiningo Kabila dans l'espace lingalophone. Ils viennent d'être notifiés par le directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État, Eberhard Kolongele. Suite de notre enquête sur les présumés détournements des fonds au centre d'expertise et d'évaluation des substances précieuses et semi-précieuses. Près de 2 milliards de dollars américains échappent au trésor public chaque année dans le secteur de l'or. C'est suite au sous-équipement et à la magouille organisée au niveau du CEC. Selon un mémorandum des travailleurs du dit centre, plus de 30 tonnes d'or quittent clandestinement le pays sans être certifié par le CEC. Explication avec vous, Michel Kifinangoy.
D'après un groupe de travailleurs de CEC, malgré plus de 3 millions de dollars de frais de fonctionnement mis à la disposition chaque année au CEC, le comité de gestion néglige délibérément de doter leur structure des laboratoires appropriés pour procéder aux analyses de manière à avoir avec précision et exactitude les vraies teneurs de l'or produit en RDC. Par manque des laboratoires, le CEC fait perdre à l'État plus ou moins 30 tonnes par an d'une valeur d'$1,5 milliard d'or non tracé à travers le pays par la fraude, peut-on lire dans le mémo des travailleurs. Un directeur du CEC affirme sous couvert d'anonymat que le comité de gestion est plus focalisé à la collecte des échantillons d'or destinés à des analyses. Ces échantillons, qui devraient revenir à l'État congolais, sont régulièrement vendus par la direction du CEC et l'argent détourné dénonce un directeur. À titre d'exemple, le personnel du CEC renseigne que le comité de gestion a vendu 5 kilos d'or d'échantillons de Kibali en 2019 et a exporté à la même année 17 kilos d'or, ce qui aurait occasionné une perte de plus de $500 millions au trésor public.
Merci Michel Kifinangoy pour ces précisions. Notez que dans une vidéo qui a été publiée hier jeudi sur les réseaux sociaux, le directeur général du CEC affirme que le parquet n'a aucun dossier sur les détournements les concernant. Pascal Niembo regrette que des questions sur le décret portant création du CEC et sur sa nomination lui soient posées. Ce sont des questions liées à la présidence et à la primature, mais on vient me les poser, s'est-il exclamé hier. Au Sud Kivu, la société civile du groupement de Kalongé dans le territoire de Kalehe réclame la réhabilitation de la route de Madidiri. Cette structure citoyenne rappelle que cette voie de communication qui facilite les échanges commerciaux avec les autres coins du territoire voisin de Kabaré, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Bukavu, est impraticable. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Jean-Baptiste Ntonga.
Cette situation bloque les échanges commerciaux entre Kalongé et le reste de la province. Selon la société civile de Kalongé, en dépit de la précarité de la route Madiriri, le pont Luha à l'entrée de Kalongé a été emporté par les eaux il y a de cela 5 jours. Ce qui aggrave la situation car aucun véhicule ne traverse. Les efforts fournis par la population de ce milieu pour réhabiliter cette route n'ont rien apporté comme solution parce que les travaux s'effectuent à main nue et avec des outils rudimentaires. La population du groupement de Kalongé lance un appel aux autorités pour qu'elles comprennent la nécessité de réhabiliter la route Madiriri ou celle de Biega, les deux étant celles qui conduisent vers le groupement de Kalongé. Aux hommes de bonne volonté et aux notables de Kalongé de s'impliquer également dans cette réhabilitation, souligne la société civile de Kalongé. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, au lendemain de l'attaque du Capitole, la riposte politique se prépare autour de l'état psychologique de Donald Trump. Les chefs démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, pensent qu'il n'est pas compatible avec sa fonction alors qu'il est président des États-Unis d'Amérique pour encore 12 jours. En France, la situation sanitaire est devenue plus fragile ces dernières semaines. C'est ce qu'a prévenu en tout cas hier soir le Premier ministre lors d'une conférence de presse commune avec Olivier Véran, le ministre de la Santé publique. Jean Castex a prévenu hier qu'il n'est pas question de baisser la garde dans les domaines sanitaires dans les prochains jours. En Côte d'Ivoire, l'opposition s'est mise en ordre de marche pour les élections législatives programmées au pays le 6 mars prochain, deux mois après avoir boycotté la présidentielle. La coalition des partis politiques de l'opposition du pays, qui regroupe le FPIC et le PDCI et d'autres regroupements politiques, annonce qu'ils vont participer à ces élections.
L'invité.
Notre invité, c'est le vice-gouverneur de la province de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, parle de la mise sur pied d'une brigade provinciale d'assainissement. Il explique comment cette structure va travailler avec une autre qui existe déjà dans la ville de Kisangani. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le vice-gouverneur de province, bonjour.
Bonjour Jacques.
Vous venez de mettre en place une brigade provinciale d'assainissement que vous avez dénommée Union Sacrée d'Assainissement. Votre entité, la Tchopo, en a-t-elle réellement besoin?
Oui, la Tchopo a tellement besoin de cela parce que le gouverneur de province, son excellence Maître Louis-Marie Walelo-Fungula, qui a fait un constat et que tous les efforts pendant plus d'une année de gestion et qu'il a fourni pour appeler les gestionnaires des entités de base à l'assainissement et de la ville de Kisangani et de l'arrière-province. Et il a constaté que malgré ses efforts, la ville reste dans un état d'insalubrité et qu'il faudrait de nouvelles stratégies pour sortir la ville de Kisangani ainsi que les chefs-lieux des différents territoires dans cet état d'insalubrité.
Monsieur le vice-gouverneur, comment pouvez-vous expliquer cette dénomination ? Union Sacrée d'Assainissement.
Vous savez, actuellement, c'est une façon de donner une réponse positive à l'appel du chef de l'État qui voudrait assez que tout le Congolais regarde dans la même direction et que l'esprit de solidarité ou d'union puisse reposer sur la bonne gouvernance. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons bien voulu dénommer cela comme Union Sacrée d'Assainissement.
Pourquoi une nouvelle brigade d'assainissement alors qu'il en existe déjà une au niveau urbain patronnée par le maire de la ville? Y a-t-il des tâches spécifiques à assigner à chaque brigade? Sinon, comment vont-elles s'y prendre sur le terrain?
Au niveau provincial, cette brigade sera coordonnée par le gouverneur de province lui-même. Au niveau de la ville de Kisangani, cette brigade sera coordonnée par le maire de la ville. Nous avons bien voulu donner l'impulsion parce que nous avons constaté que les brigades qui sont au niveau de chaque commune et au niveau même de la mairie de Kisangani ont donné leurs limites et qu'il faille une solidarité, une conjugaison des efforts d'un grand nombre pour essayer de sortir la ville de Kisangani aussi les chefs-lieux de chaque territoire dans cet état d'insalubrité. Et donc, il y aura des tâches spécifiques, c'est-à-dire le maire de la ville va travailler en collaboration avec le bourgmestre des 6 communes ainsi que la collectivité sectaire de Lubuyabera. Chaque entité donne 10 éléments et la mairie donne 20, ça fait 100 unités et ils doivent au niveau de chaque commune déterminer les axes qui nécessitent l'apport de la solidarité des autres et ils vont établir un chronogramme de travail pour essayer de donner la réponse à la question posée, c'est-à-dire l'insalubrité. Et donc voilà la manière dont nous attendons faire fonctionner cette brigade que nous dénommons Union Sacrée d'Assainissement.
Est-ce que les moyens sont disponibles? Je vais parler ici des ressources matérielles eux-mêmes financières.
D'abord, la mairie de Kisangani a hérité de matériel aratoire du fonds social. Ça, vous le savez. Pour le problème de matériel, ça ne se pose pas. Mais pour le problème de motivation du personnel, nous nous sommes convenus avec le bourgmestre des communes que chaque commune, comme il paye au quotidien ses ouvriers, il va commencer à prendre en charge les membres de l'Union Sacrée qu'ils ont envoyés au niveau de la mairie. Et le gouverneur de province va aussi s'y plier chaque fois qu'il s'agit des grands travaux pour essayer de motiver correctement le personnel. Et donc nous pensons qu'au niveau des matériels et au niveau de motivation, il ne se posera pas un problème si nous travaillons en parfaite harmonie avec les communes.
L'insalubrité est aussi décriée dans l'arrière-province, monsieur le vice-gouverneur. Est-ce que cette brigade pourra se déployer aussi au niveau de l'intérieur?
Au niveau de chaque chef-lieu du territoire, nous envisageons mettre sur pied cette brigade et cela, ça va fonctionner avec l'appui de chefferies et secteurs qui sont des entités territoriales décentralisées et qui ont des recettes et qui bénéficient aussi des rétrocessions du gouvernement central. Et donc, dans un premier temps, commencer à assainir le chef-lieu du territoire parce que nous avons fait le même constat. Donc, il y a l'insalubrité dans le chef-lieu du territoire, les différences chefferies et secteurs vont devoir se mettre en branle pour donner le moyen ainsi que le personnel pour que la haute intensité de la main-d'œuvre puisse travailler. Vous vous rappellerez que à l'époque coloniale, nous avions des routes, de desserte et qui étaient entretenues sous ce système de la haute intensité de la main-d'œuvre. Et je crois que nous pensons relancer cela au niveau de l'arrière-province et dans le cadre des lignes sacrées d'assainissement provincial.
Monsieur le vice-gouverneur de province, merci.
Merci Jacques.
L'invité de Radio Okapi, c'était le vice-gouverneur de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, a été questionné par Jacques Moukonkole. Il est 12h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Honoré Missenga Kalala qui a coordonné ce journal placé sous la supervision éditoriale de Julien Nyamouni.
Bonjour, Ligue nationale de football, le FC Renaissance reçoit l'AC Rangers dans le cadre de la...